On y va ? Allez.
Par rapport à ce qu'on a vu ce matin et ce qu'on a fait ce matin et cet après-midi, en fait, je me pose la question de quel est l'outil que je vais prendre en fonction de mes objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, dans la vidéo, je vois, j'ai du non-verbal, j'ai le corps des personnes, j'ai énormément d'éléments. J'ai pas tout ce que le metteur en scène veut, mais j'ai beaucoup de choses. J'ai besoin d'avoir plus de choses. C'est comme si dans votre texte, dans les 8, les 3, les pages qu'on a, alors ce que je trouvais d'intéressant, c'est que eux, ils avaient sûrement de la page 1 à la page 5, puis nous, on avait de la page 5 à la page 9, et eux, ils avaient nos deux premières. C'est-à-dire qu'il y a eu ce décalage. Je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, on se raccrochait sur ce que les autres avaient fait. Mais il me manque, comme dans une pièce de théâtre, tout ce que le metteur en scène se dit, ah tiens, ça serait intéressant d'avoir, je ne l'ai pas. Et ça, ça m'a un peu manqué. C'est-à-dire autant, mais peut-être que c'est voulu, parce que du coup, là, elle me faisait la réflexion que, en fonction de ce que je vise, à la fin, pour bien préciser le questionnement du rapport entre le sens et le truc, je l'ai peut-être mieux lu, enfin mieux entendu, de l'entre les lignes de là. Je ne le sais pas. Peut-être qu'en fonction de ce que je veux faire ou de ce que je vise, je vais plus travailler avec la vidéo ou plus travailler sur un verbe intime. C'est presque quelque chose de l'ordre de la complémentarité, quoi. Est-ce qu'il serait intéressant d'avoir la même chose, exemple une vidéo, et on n'a que le texte, et on fait travailler des étudiants, il y a des étudiants qui ont toute la vidéo et d'autres étudiants qui n'ont que le texte. Et qu'est-ce qui se passe dans les démarches des étudiants avec ces deux outils, je dirais.
Toujours dans ce « qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds ?», vous vous rappelez une modalité qu'on a citée, qu'on ne vous a pas montrée, c'est « je regarde juste le début, j'arrête, je dis alors qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, et vous, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis après on regarde « ah oui, non, c'est ça qui s'est passé ». Une troisième modalité d'utilisation, soit de la vidéo, soit des scripts, qui à chaque fois va permettre certaines choses, frustrer certaines autres.
Oui, en tant que formatrice, enfin dans un dispositif de formation, il me semble qu'on ne peut pas trop se passer de la vidéo parce que si on n'a que le texte, mais c'est juste une réflexion comme ça ponctuelle et factuelle, hein, si on n'a que le texte, on perd quand même une partie de l'interaction entre les personnes. Et je me rends compte de la difficulté que j'ai eue moi personnellement tout à l'heure à identifier qui étaient les enseignants, le collègue, etc. J'ai mis un bon moment à rentrer dans le texte parce que j'ai pas l'habitude de l'exercice. Et je me dis, si je mets des étudiants face au texte sans avoir vu au préalable la vidéo et avoir pu simplement identifier les personnes et leur rôle, leur fonction et le fait qu'ils aient eux-mêmes la vidéo de la leçon, le fait que les gens comprennent cette architecture-là me semble un obstacle à l'entrée dans le texte et a fortiori à son analyse. Donc il me semblerait indispensable, avec des étudiants dans un dispositif ou même des fonctionnaires stagiaires dans un dispositif de formation, d'avoir obligatoirement la vidéo à un moment donné.
Peut-être un tout petit point sur les deux réflexions là. Vous voyez bien que dans la formation, la vidéo a été importante. Hein. C'est pas parce que je vous ai pas présenté la vidéo qu'elle n'a pas été importante dans la formation. J'ai fait le pari que, m'adressant à vous, vous pouviez vous passer de la vidéo pour vous intéresser à autre chose, mais qu'on avait construit à partir de la vidéo. Et évidemment, en formation, il y a une complémentarité à construire en même temps. Parce que je pense que ce n'est pas une complémentarité au sens où il faudrait faire les deux pour qu'on fasse le tout. C'est qu'à mon avis, il y a des fonctions différentes à ces différents outils et surtout aux différents moments de la formation. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons présenté des images le premier jour de la formation, des images de classe, et des images de collègues qui discutaient entre eux. Pas de verbatim, mais des images de collègues qui discutaient entre eux. Donc voilà, on a utilisé à certains moments donnés certaines vidéos, mais au bout d'un moment, quand on avait suffisamment répété l'approche d'une activité, alors on s'est dit, ils peuvent accéder à la complexité du verbatim, c'est-à-dire aux mots sur lesquels on peut s'arrêter, qu'on peut entourer, qu'on peut barrer, qu'on peut reprendre. Et vous voyez, il y a à la fois la vidéo est intéressante parce qu'on peut l'arrêter, mais en même temps, il y a un flux. Et quand on l'arrête, elle n'existe plus, sauf dans nos têtes, mais elle n'existe plus. Il y a l'image figée qui est intéressante. Hein, l'image figée est souvent, des fois c'est souvent par hasard, mais c'est intéressant. En tout cas, le texte a une autre fonction le texte dit et le texte écrit a une autre fonction et qui est instrumenté dans la formation.
Elle aurait beaucoup moins la difficulté. Effectivement, elle a raison. Moi, je me suis dit, je fais comment pour savoir qui parle? Alors, j'ai fait des petits schémas dans la marge pour savoir d'où on parlait, quel était le background et l'historique. Sinon, j'arrivais pas. Mais vous présentez ce document-là en prenant compte de quatre typos. Déjà, on arrivera mieux à comprendre le. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut croiser des cheminements. Et il faut savoir où il y a les bifurcations.
Alors, vous voyez, dès qu'on rentre dans une problématique de conception de la formation, on en vient à des détails techniques. Et pour moi, les détails techniques, je dis vraiment avec intérêt, sont les fondamentaux. C'est-à-dire que, suivant effectivement comment on va mettre en place ça ou ça, ça va modifier grandement l'outil et ce qu'on va pouvoir en faire. À titre d'exemple, ce verbatim, on l'a présenté, on l'a fait travailler à certains moments, sans aucune indication de qui parlait.
C'était bien.
Et ça provoquait autre chose. Effectivement, là, par exemple, j'ai développé, parce que je voulais vous faire travailler sur activité professionnelle et activité de formation, j'ai développé le verbatim de l'activité de classe. À d'autres moments, je présentais l'activité de classe en une phrase ou deux de résumé. Vous voyez, donc effectivement, dans ces techniques-là, très très minutieuses, très précises, ben on agit sur d'autres leviers de formation.
Par exemple, moi j'ai remarqué que dans les documents que Serge nous a présentés ce matin, il avait pris trois couleurs quand il présentait Neopass, quand il disait ça c'est les débutants avec les débutants, ça c'est etc. Et ces trois couleurs, moi elles m'ont aidé à comprendre ce qu'il disait à ce moment-là. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est quelque chose qui survient. Donc cette manière d'être dans les détails, effectivement, c'est il n'y a pas que la question des instruments, il y a la question de la précision avec laquelle on utilise les instruments, quoi. On continue.
Oui, enfin, pour aller dans ce que je vous ai présenté, pour moi, ça renvoie, enfin, cette première phase, là, d'immersion mimétique. Quelles sont les conditions qui vont favoriser? Alors après, selon le temps qu'on a, le type de collaboration dans laquelle on est engagé avec les acteurs, évidemment, on peut prendre des voies que l'on peut déployer plus ou moins. Le pouvoir, enfin la puissance de la vidéo, effectivement, mais il faut être conscient aussi des risques et des biais de l'utilisation de la vidéo, mais c'est cette facilité d'immersion mimétique, à certaines conditions, évidemment, de mettre les étudiants, enfin les former dans une posture de spectateur, mais au sens où c'est d'un point de vue critique analysé par les réalisateurs. Il parle de la puissance dénégatrice du spectateur au cinéma, c'est-à-dire la capacité à accepter l'idée qu'évidemment ce qu'on voit à l'image c'est faux, enfin c'est faux quand on regarde un film, et en même temps on s'y plonge, et bon, on sait bien qu'un bon film, enfin un film qui nous prend, dans lequel on se prend au jeu, c'est ce qui va favoriser ça. Et là, c'est un petit peu la même chose. Les collègues qui sont confrontés, ils savent bien qu'ils sont pas dans la classe, ils savent bien que c'est pas eux qui est dans cette classe, etc. Et en même temps, ils s'y voient, et en même temps, ils se voient à la place, et en même temps, ils se voient dans leur classe, etc. Donc c'est à quelles conditions? Et je pense que, si on met une situation trop lisse, c'est là où on peut interroger des vidéos formatées un peu entre guillemets bonne pratique, où on cherche à forcer ce qu'il faudrait faire, ou à idéaliser des formes de pratique. Je pense que là, il y a des choses qui, alors c'est intuitivement, hein, ça reste à démontrer du point de vue de la recherche, mais qui a, du point de vue de la formation, l'intuition, c'est que là, il y a des choses qui peuvent ne pas faire favoriser cette immersion là, mimétique, parce que on est trop loin de leur monde, de leur monde d'enseignants, quoi. Donc là, il y a des choses intéressantes, évidemment, d'autant plus quand on a un éventail, comme c'est le cas dans Neopass, où les acteurs là peuvent se situer. Bon, Romain, ok, entre guillemets, j'ai un peu dépassé ces difficultés, même si je m'y vois bien. Et voilà, moi, je suis plutôt là. Et le fait de pouvoir naviguer dans plusieurs façons de faire, ça va permettre aux... Donc, il y a ce pouvoir de la vidéo. Après, si je vous montre peut-être une diapo, parce que j'avais prévu de le faire...
Sur le « à quelles conditions », je pense que c'est vraiment une sacrée question qui est permanente sur les outils, quoi. Dans ce que Yuri n'a pas dit, que je me permets de compléter, c'est que le « à quelles conditions », c'est que le type de formation qu'il a organisé là, c'est le rendement entre l'activité du formateur et le développement des stagiaires, le ratio, il resterait à mesurer. Parce que il a eu un fort développement des stagiaires et des stagiaires qui lui ont dit... voilà, si on n'avait pas vécu ça, peut-être qu'on serait parti, etc. Il a eu aussi un certain nombre de stagiaires, il l'a dit, qui ont arrêté en route pour des raisons multiples. Et puis, il a eu un engagement extraordinaire du formateur, de ce que ça demande comme travail du haut formateur pour aller faire 18 enregistrements, 18 autoconf, des croisés, le décryptage, etc. Donc tout le travail de ce qu'on peut faire dans ce genre de situation et ce qu'on peut faire en ayant recours à des instruments qui sont peut-être moins directement centrés sur les problèmes spécifiques des gens, mais un peu plus génériques. Je te laisse.
Oui, mais je vais faire le lien parce qu'en fait, sur la vidéo, la question se pose dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'on peut penser que des outils, des artefacts, finalement un peu tout faits, comme Neopass, facilite le travail par rapport aux formateurs, mais ça pose le problème de ce qui en est fait. Hein, évidemment, c'est attirant parce que d'emblée, on peut utiliser des séquences qui sont toutes montées, etc. Ça pose évidemment, tout reste à faire. Tout le processus de formation, évidemment, reste à mettre en place. Et là, du coup, si on n'a pas, de la même façon que ça a été présenté là par Yuri dans le processus même de l'activité, la mise en activité de formation, si on n'a pas tout cette réflexion en arrière-plan, évidemment. On se retrouve... là, c'est simplement une diapo que j'avais prévu de vous présenter très, très rapidement, mais pour resituer un petit peu des pratiques de vidéoformation de manière un peu historique. Hein, ça date pas d'aujourd'hui, l'utilisation de la vidéoformation. Alors, de manière un peu caricaturale, mais c'était pour pointer un petit peu... des grandes façons de faire. Bon, vous connaissez le micro-enseignement, des pratiques de micro-enseignement qui ont démarré aux États-Unis et qui continuent à se développer dans les instituts de formation des enseignants en France, où il s'agissait quand même de réduire l'activité de classe à des micro justement situations d'enseignement. Donc forcément à rendre les situations assez artificielles et à se focaliser sur les comportements observables et à utiliser finalement la vidéo dans une fonction presque judiciaire de vidéo preuve qui ah mais oui là vous avez vu ce qui s'est passé, il a fait ça, voilà, et ça, voilà. Et donc bon, d'où l'intitulé vidéo contrôle, avec l'idée de répéter des gestes standardisés, souvent qui étaient dans les projets de départ, les skills là, qui étaient demandés par les chercheurs, en fait, mais qui ne travaillaient pas sur l'activité professionnelle. Hein, donc avec des décalages importants, évidemment, avec les pratiques en situation. L'autoscopie, évidemment, qui est apparu en réaction justement avec ces pratiques où finalement les sujets là étaient totalement absents dans cette première vision là du micro-enseignement, en tout cas au démarrage, et l'autoscopie est venue finalement redonner la parole au sujet, la parole et ça a généré des phénomènes évidemment intéressants de prise de conscience, etc., mais tout autant de blocages, puisque par rapport à des formes de manipulation de l'image de soi qui étaient très peu maîtrisées par les formateurs, qui n'avaient pas évidemment de formation psychologique par rapport à ces aspects-là et qui retrouvaient du pouvoir en jouant de manière, en pouvant jouer de leur pouvoir, de leur rôle assez inquisiteur sur... et mettre évidemment les acteurs en grande difficulté. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui ont montré les limites de l'utilisation de l'autoscopie. Alors il y a les travaux de Linard, Prax en France, mais il y a pas mal de travaux aux États-Unis. Vidéo prescription, donc là on est plus sur travailler sur les bonnes pratiques, et donc là c'est modéliser, idéaliser des formes de pratiques qu'on voudrait voir. Alors évidemment, là, il y a des... on va retrouver pas mal de séquences vidéo qui sont un peu dans cette perspective-là, où on réduit la complexité de la classe et on identifie le projet, hein, c'est d'identifier des lois du fonctionnement de l'enseignement intangible dont on pense que si elles sont appliquées dans les classes, ben dans une relation descendante de cause à effet, ben ça va être efficace. Et là, on renforce évidemment une vision idéalisée de l'expertise, de l'expert, et on ne prend pas en compte du tout justement l'activité des enseignants qui débutent dans le métier et donc la question du développement professionnel. Donc les novices sont vus en creux et c'est toujours dans des décalages, des tensions entre ben voilà ce qu'il faut faire et voilà ce que vous faites pas. Et bon, les approches qu'on vous a présentées, évidemment, se situent plus dans mettre en plein l'activité des débutants, d'un genre qui débute dans le métier, avec une vision dynamique et constructive du développement professionnel. Il me semble qu'on l'a vu aussi bien dans les deux approches. Un des aspects manquants, en tout cas dans Néopass, par exemple, qui a été pointé, et ça me semble légitime, mais ça se comprend bien compte tenu de l'urgence dans laquelle ça a été fait, et puis ces recherches-là n'étaient pas du tout sur ce registre-là, c'est l'absence du point de vue des élèves ou l'absence de toute réflexion, enfin, il y a relativement peu de réflexion sur l'activité des élèves.
Sur cette question-là, des outils qu'on a vus, Serge nous a dit, là, hein, comment ils avaient pu être utilisés différemment, je voudrais la rapprocher d'une question qui a été posée, auquel je ne saurais pas répondre avec la pertinence que j'attends de moi-même, c'est la question du développement. Parce qu'on parle de développement professionnel, on parle aussi de développement de l'activité. Alors déjà, il faudrait qu'on se mette un petit peu d'accord quand on parle de développement, de quoi on parle, pas qu'est-ce que c'est, mais développement de quoi. J'ai pu parler aussi de développement du métier. Donc vous voyez, c'est encore des choses un peu différentes, surtout si on prend les mots que j'utilise sous leur forme conceptuelle. Et je pense que ça a à voir beaucoup avec la relation entre l'apprentissage et le développement. Et la question de la vidéo me semble être un bon outil pour interroger cela. Parce que ça a été utilisé et c'est utilisé pour rapatrier de l'activité en formation et donc donner une forme à une activité qui est extérieure, donner une forme, voire à construire des mots qui correspondent à ce que l'on fait, hein, ce rapport entre le dire et le faire, et comment se dire et se faire se boucle, on passe de l'un à l'autre sans qu'il y ait confusion forcément entre l'un et l'autre, et comment ça participe pour une part de l'apprentissage, c'est-à-dire d'une conceptualisation, c'est-à-dire de la construction de concepts pour penser l'activité, et en même temps comment ça permet effectivement d'agir différemment, d'agir autrement, mais pas seulement autrement, c'est-à-dire agir en connaissance de ce que l'on a fait, ce qu'on pourrait tenter d'aller vers le développement. Hein, mais il me semble que ce couple-là est extrêmement important pour penser les outils de la formation, mais il faudrait approfondir ce qu'on entend par ce que les outils provoquent en termes d'apprentissage et ce qu'ils provoquent en termes de développement. Et du coup, on approfondit, mais les questions que vous avez posées ce matin me semblent rester valides, quoi.
Donc là, c'est juste quelques pistes, mais de manière très très rapide, hein, qui sont issues de la confrontation que j'ai réalisée de la plateforme de Néopass Action avec des formateurs que je vous ai très très rapidement présentés, avec des cultures, hein, qui viennent avec leur bagage, leur background de formateurs, voire de chercheurs pour certains, et donc de cadres théoriques qu'ils utilisent. Voilà. Alors, par exemple, voilà, une collègue sociologue. Je vais vous montrer un tout petit extrait. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je le cale à peu près à l'endroit où elle en parle, si...
Éducation. Mmh. On sait qu'il y a une inégalité majeure qui est peu souvent mesurée.
Ouais.
Et qui réside dans le laps de temps mis à vraiment l'entrée dans le contenu, le cours lui-même. Et que selon certains établissements et certaines expériences, certaines situations, on perd du temps. Beaucoup de temps, donc on perd en offre publique d'éducation. Là, je noterai ce que je viens de te dire. Là, j'aurais eu envie.
Donc là. Rapidement, enfin, vous voyez comme elle raccroche évidemment les difficultés. Là, elle venait de voir, de visionner la première séquence de Romain, les difficultés du début de cours par rapport à des études sociologiques plus larges sur des études qui prennent en compte ces difficultés-là en contexte dit difficile, en zone sensible.
Le temps d'exposition au savoir, Bautier et compagnie.
Voilà. Alors, des formes d'ajustement, d'adaptation. Donc là, vous allez retrouver, je pense, les cadres théoriques.
On voit bien que c'est l'outil. On s'approche petit temps pour synthétiser ce qui se passe là, début de cours, quel est l'enjeu. Il faut qu'on puisse travailler, vivre ensemble, penser ensemble, donc comment on s'y prend. Donc là, pour moi, il y a un autre point intéressant qui est celui qui consiste à faire comprendre aux jeunes profs que leur ressource principale, c'est l'expérience, si courte soit-elle, et que du coup, chaque année apporte son lot de mésaventures, parce qu'en changeant de type de classe ou de niveau, automatiquement, il faut réajuster. Ce qui est très important d'avoir ces vidéos, bien sûr, parce qu'on voit bien que d'une classe à l'autre, d'un prof à l'autre, et ça dans un collège, c'est majeur, un élève donné n'a pas le même comportement. Donc, suivre un élève...
Alors, ça, c'est sur un élève, oui. Bon, je vous le laisse, parce que c'est difficile, j'ai pas fait les montages. C'est intéressant, la piste qu'il développe, là, de suivi d'un élève. C'est-à-dire, quand on regarde l'ensemble des clips vidéo, vous allez voir qu'on retrouve régulièrement les mêmes classes et que du coup on peut pister et travailler sur l'activité d'un élève et les façons dont cet élève finalement interagit avec des façons de faire ou des positions de l'enseignant ou de l'enseignante différentes.
L'élève me paraît une belle piste. Ouais. C'est là qu'on voit.
L'élève que tu avais repéré.
Voilà, j'ai repéré avec Romain, je le retrouve là et je me dis tiens, il se met à la même place, mais à cette place-là avec un autre prof qui est pourtant une jeune dame. Il se comporte tout autrement. Bon, alors.
Quand on passe la porte, le cours commence. Vous voyez, on est en anglais et c'est vraiment le début du cours se fait à l'entrée en classe. Il y a pas.
Alors là, on est sur cet autre geste qu'on appelle pilotage de l'espace et du temps. On voit bien que.
Donc là, vous voyez les cadres mobilisés.
Si le cours commence à la porte, alors que tout à l'heure Romain accepte que le cours ne commence que quand lui est au tableau, bon, il y a des différences extrêmement importantes. On est dans une relation qui est individualisée. Contact visuel, dit l'enseignante, mais surtout aussi l'interpellation, soit par le prénom, soit par jacket, c'est-à-dire il y a une intimation qui est faite. Tu enlèves ton vêtement, on entre en cours. Entre en cours, c'est se déshabiller pour s'habiller autrement, quoi. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Voilà. On n'amène pas les...
Voilà, et puis un dernier extrait, peut-être.
L'idée, je trouve ça, de toute façon, intéressant comme dispositif. Cette idée qui est que parler sur soi, parler sur son expérience, c'est sans doute irremplaçable, et ça peut peut-être, je sais pas si tu avais questionné là-dessus, certaines fois, ça peut permettre de donner une espèce d'épaisseur, de distance, alors... Petit à petit, on a les situations d'enseignement. C'est-à-dire qu'à force de. Si on prend l'habitude de parler sur soi comme ça, parce que là, elle décrit son mal à penser, c'est vraiment une mise à plat des émotions ou des. Et sans doute, si tu en prends l'habitude, si ça fait partie d'un processus de formation relativement régulier, sans doute tu ne démarres pas une classe de la même façon. Ce regard, il t'accompagne. Je pense que c'est la construction d'un regard. C'est presque. Oui, ça participe de la construction d'un regard, presque comme si tu étais chercheur de toi-même, quoi, ton propre chercheur.
Voilà, quelques extraits.
Sur la question de développement et d'identité, enfin, je fais deux réponses, mais qui sont peut-être un tout petit peu décalées. La première, en tout cas, réaction de ma part, c'est de considérer que le travail de Néopas s'appuie sur la mise en avant du développement professionnel. C'est-à-dire, il y a une approche développementale où on essaie de repérer des dynamiques de transformation de l'activité. C'est-à-dire, le développement, on l'aborde par rapport à l'activité. Et dans une perspective de provoquer de la dynamique de développement en formation. Donc, on est quand même dans cette perspective de double dynamique. Quand Patrick Rayou, à un moment donné, a fait une intervention un peu statique sur une vidéo, j'ai été catastrophé, vous l'avez vu, au bord des larmes. Et tout de suite, j'ai répliqué et je repositionnais cela dans une dynamique de transformation. Si l'usage de NeoPass par les débutants est une approche complètement statique, et je commence à prendre un peu peur de cette possibilité-là, c'est-à-dire que même, ne prenant pas le temps de rentrer dans les détails, pique ici et là deux vidéos et en fasse une approche complètement statique, assez proche de ce qu'on pourrait avoir sur tenue de classe. Ça pose un vrai problème, et c'est vrai qu'il me semble que là, il y a peut-être aussi une vigilance à avoir pour qu'au niveau de la formation, on réinsère ou on permette en tout cas de reprendre cette position développementale et dynamique que les néos ne vont peut-être pas réussir à faire eux-mêmes, si ce n'est les 10% qui sont, comme on l'a vu ce matin, des contre-exemples. Deuxième point, si on regarde Romain maintenant, Romain 1 et Romain 2, j'aime bien cette expression, on s'aperçoit que c'est moins un changement développemental ou en tout cas de développement identitaire fort en quelques mois. Si je m'intéresse à la construction identitaire ou de cette professionnalité débutante, etc. Mais c'est quand même des changements d'horizon dans l'usage, dans les médiations, c'est-à-dire l'usage des objets, des artefacts, puisque, sans parler de la place qu'il avait au départ, on s'aperçoit qu'il utilise le vidéoprojecteur, il utilise les images, donc il y a quand même une sorte de transformation dans son activité liée à des autorisations qu'il s'est données lui-même pour pouvoir médier autrement son activité. Donc c'est bien une activité qui est médiée par un certain nombre de choses nouvelles pour lui, de nouvelles activités qu'il a pu éventuellement prendre chez des collègues ou en tout cas en recevant un certain nombre de conseils. Donc c'est bien une transformation de l'activité. Et on est dans une perspective, nous, avec Serge et d'autres, sur du cours d'action, où c'est l'activité même qui va progressivement changer l'identité. On n'est pas dans une perspective déterministe de l'identité produisant un certain nombre d'activités, de façon, vous voyez, un peu, oui, en déduction d'eux ou de façon relativement déterministe. On est dans une sorte de transformation de l'activité qui progressivement va favoriser des transformations même de l'identité professionnelle, avec certainement des empans temporels très différents. C'est-à-dire que les changements d'activité peuvent se produire ici et là, ici et maintenant, et que les transformations d'identité professionnelle sont peut-être sur des empans temporels beaucoup plus longs. Bon, c'est un début de réponse, mais qui est intuitif, mais qui essaye de mettre en avant ces changements même d'échelle, mais aussi cette dynamique de transformation que l'on essaye d'injecter et dont on considère que cette injection est nécessaire pour qu'il y ait de la formation derrière, mais on voit bien les usages même des néos qui peuvent se couper de cette dynamique à condition que les formateurs acceptent eux-mêmes de comprendre la pertinence de la dynamique pour pouvoir créer un espace de formation. Bon, j'étais un peu long et confus.
Oui, je voulais te demander, Luc, si dans chacune de nos académies, on essaie justement de mettre en œuvre des scénarios d'utilisation de NeoPass à des fins de formation de différents publics. Comment peut-on faire ensuite pour remettre en débat la pertinence de ces usages, pour les faire évoluer et les adapter progressivement aux nouvelles données qui vont apparaître sur la plateforme et qui vont peut-être définir de nouveaux cheminements possibles entre les thématiques et entre la présentation, je dirais, progressive des cas au sein même d'une thématique. Donc, au-delà de ce moment de travail qui nous a réunis pendant quelques jours, maintenant, en gros, on a une commande, c'est d'essayer de faire vivre ce dispositif-là, respectivement, selon nos propres contraintes, des propositions. Mais quelle échéance on se donne pour se revoir, faire le point par rapport à ça? Et impulser une vraie dynamique de vie sur cette plateforme pour qu'elle évolue avec le contexte aussi de la réforme.